Bonsoir à tous et à toutes, nous voici partis pour une nouvelle webconf qui devrait normalement ne pas durer trop longtemps vu le nombre de questions qui a été posée. Donc ne perdons pas de temps et regardons ce que l'on nous demande. Une question de Jardin Zen. Est-il envisagé une action spécifique sur les cours d'eau qui alimentent les centrales ou reste-t-on dans une action d'encodage classique ? Ben, la réponse, c'est qu'on encode partout où on peut. Donc, que ça alimente une centrale nucléaire ou pas, ça change rien, hein, on encode. Voilà, donc vous voyez, il n'y a pas de ségrégation à faire, on va dire. Une question de Romain. Je me suis procuré un collier en quartz. D'après ce que j'ai compris, mettre un C2P sur le collier permet de l'encoder sur le plan moléculaire. Le fait de porter plusieurs pierres encodées sur soi augmenterait-il les effets de celles-ci ? À chaque fois que je rentre du centre-ville, Toulouse, ou de l'université, je me sens totalement vidé, alors que chez moi, je ressens le contraire. Je suis revitalisé, certainement parce que j'ai disséminé quelques C2P un peu partout. Donc ce qu'il faut savoir déjà, Romain, c'est que, effectivement, le fait d'être déjà dans une grande ville et au milieu des gens fait que tu es bien sûr en contact avec l'aura des gens. Et d'une manière ou d'une autre, eh bien, ça te pompe. Tout simplement. Ça te vide. Donc, même s'il y a, on va dire, une certaine forme de protection pour éviter que tu te vides, n'empêche que la densité, on va dire, de basse fréquence qu'il y a, eh ben, fatigue énormément. Hein. Donc, il faut savoir, c'est que plus on boit de l'eau encodée, plus on devient sensible à tout ce genre de phénomène, qui fait que bah, progressivement, d'une manière ou d'une autre, de toute façon, il faudra fuir les villes, quel que soit ce que vous faites. Mais bon, l'aspect 3D des choses vous le fera comprendre très rapidement. Quoi dire d'autre par rapport à ça ? Bah, le fait que tu émets des cristaux, en fait, plusieurs C2P dans ton appartement ou dans ton lieu de vie, fait qu'effectivement ça décrase, parce que les C2P ou les deux C2P qui sont mis dans l'eau ou tout simplement dans l'air, eh bien, décrassent. Donc autant il y a un travail qui est fait dans l'eau, autant il y a un travail qui est fait dans l'air. Donc il est évident que si tu pouvais t'amuser à mettre des C2P partout dans l'université, partout dans Toulouse, ça changerait quelque chose, c'est évident. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà pourquoi tu es très fatigué. Une question de Christine. En ce moment, je fais une cure au terme troglodytique de Jean-Zach. Je me demandais si encoder ce genre de site où coulent des hectolitres d'eau serait intéressant à la fois pour la nature et pour les personnes qui font les cures. Mais peut-être que cela ne peut pas être dans les programmes d'encodage. Pourquoi se limiter ? L'encodage, et vous allez le voir plus tard, parce que je répondrai à une question un tout petit peu plus tard à ce propos, c'est qu'est-ce que le programme contient. Et vous allez voir qu'en fonction de cela, eh bien, ne vous limitez en rien du tout, puisque, d'une certaine manière, le programme est là pour encoder tout et répondre à toutes les demandes. Donc, je dirais même mieux, quand il y a des établissements thermaux, eh bien, encodez un maximum de ce que vous pouvez. Contact avec les EDLN. Une question de Fran. Quand on n'a pas la possibilité d'être souvent en contact physique avec un EDLN que vous nous avez présenté, car on n'habite pas toujours sur son lieu, peut-on par la pensée le contacter ? Effectivement. Nous pouvons contacter n'importe quel EDLN, quel que soit l'endroit où on se situe. Donc nous n'avons pas besoin d'être à proximité. Dites-vous bien que nous passons par la grille cristalline en règle générale, et donc la communication se passe que tu sois à 1 mètre de lui ou que tu sois à 10 000 km de lui, cela ne change rien. Donc quand nous communiquons avec les êtres de l'invisible, la distance n'a aucun rapport, hein, puisque en soi, on va dire que ce n'est pas un monde physique de 3D, donc il n'y a pas, on va dire, de ralentissement de l'onde ou des choses comme ça. C'est instantané, ça marche, et il n'y a aucune déperdition. Une question de Soubestre 64. Pourrais-tu nous en dire plus sur les EDLN, les particularités ou spécificités? Quelles sont leurs manifestations, leurs interventions? L'opération Petit Poussé est-elle associée aussi aux EDLN de l'air ou du feu? Alors, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de compartimentage. Alors, les particularités, les spécificités des EDLN, c'est tout simplement de maintenir le décor de tout ce qui est ce que nous appelons notre monde. Donc, sans les EDLN, il n'y aurait pas, on va dire, de fleurs qui pousseraient. Il n'y aurait pas de plantes qui pousseraient. Il n'y aurait pas d'eau qui se purifierait. Il n'y aurait pas tout ça. Parce que contrairement à ce que l'on peut penser, et ce que la science nous met dans le crâne, eh bien, toute forme de vie, on va dire, a besoin d'être guidée par l'invisible. Donc, même une graine a besoin d'être guidée par les EDLN, d'une certaine manière, afin qu'elle pousse. Au même titre que nous-mêmes, quand nous sommes sur le chemin de l'ascension, nous sommes obligés d'avoir un guide pour avancer. Si vous n'avez pas un être de l'invisible qui s'occupe de vous, vous ne pouvez pas pousser. C'est pour ça que, on va dire majoritairement, le préhumain vieillit et meurt. C'est parce qu'il n'est plus au contact de l'invisible. Et donc déjà tout particulièrement de son soi supérieur, c'est-à-dire de sa petite voix, de ses intuitions, ses ressentis. Donc, effectivement, chaque règne des EDLN a des spécificités. Les nains sont plutôt concernés, on va dire, par les arbres, et particulièrement les racines des arbres. Donc, les nains sont des travailleurs de la terre, et connaissent très bien la terre. Je parle de l'élément terre. Donc, ils font un très très gros travail avec les arbres pour que les racines des arbres puissent se développer correctement. Ne croyez pas que les racines poussent comme ça, au pif, au hasard, et ça s'enfonce dans le sol, et puis ça marche. Eh ben non. Je sais que c'est peut-être dur à comprendre pour beaucoup, mais c'est ainsi que ça marche. Alors, quelles sont leurs manifestations? Eh ben, tout ce que tu vois de vivant et qui pousse, ben, ils sont derrière. Leurs interventions, ben, s'ils intervenaient pas, ça dépérit. Alors, l'opération Petit Poussé est-elle associée aussi aux EDLN de l'air ou du feu? Mais ça pourrait être valable pour la Terre, pour tous les éléments, et il n'y a aucun distinguo par rapport à ça. Donc forcément, tous les EDLN sont, je dirais, fortement impliqués dans l'affaire Petit Poussé, parce que, en fait, quand vous mettez une pierre encodée quelque part, eh bien, vous commencez, en fait, à donner, à manger aux EDLN. Car rappelez-vous que les EDLN, leur nourriture s'appelle des vortex. Or, notre civilisation a tout fait pour d'abord leur prendre. Donc, leur prendre de deux façons différentes. La première façon a été celle de construire des murs autour des vortex principaux, c'est-à-dire des églises, principalement. Donc ça, on a foutu les EDLN dehors. Ensuite, eh bien, partout où les villes se sont, on va dire, développées. Donc, là où il y a une autoroute, là où il y a du goudron, là où il y a un centre commercial, là où il y a des zones industrielles, dites-vous bien que les EDLN ont déserté les vortex pour la simple et bonne raison, c'est que les infrastructures humaines ont quasiment coupé souvent les sources d'alimentation des vortex. Donc, beaucoup de vortex sont, on va dire, totalement à la ramasse, et s'ils arrivent à fonctionner, ils sont souvent déséquilibrés. Car au lieu, par exemple, d'être alimentés par quatre branches, comme un croisement de deux lignes, eh bien, ils sont plus alimentés que par un, voire par deux. Et donc, ils sont complètement erratiques, c'est n'importe quoi. Et forcément, puisqu'il n'y a plus de DLN pour les réguler, pour les maintenir, eh bien, c'est du n'importe quoi. Donc, beaucoup de vortex s'atrophient, au point que, ben, il y a pratiquement plus de vortex, où ils tournent d'une manière erratique ou à une puissance presque nulle. Donc, progressivement, au fur et à mesure que l'homme a développé, on va dire, son emprise sur la nature, eh bien, il a littéralement, on va dire, piqué les sources de nourriture des êtres de la nature. Donc, imaginez quand vous voyez des collines entières qui sont, on va dire, quasiment dévastées par les exploitants agricoles, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus un arbre, il n'y a plus rien du tout. Croyez-moi que le vortex qu'il y a en plein milieu du champ, même s'il y en a deux ou trois, eh bien, il est difficile d'être entretenu, surtout par un nain ou par un elfe ou tout ça, parce qu'ils n'ont même plus un endroit où habiter. Donc, quelquefois, il peut y avoir des transferts, c'est-à-dire que le vortex est donné, entre guillemets, à des fées, hein, parce qu'elles peuvent voler pour venir jusqu'au vortex, faire les corrections, aller plus loin s'ils arrivent à trouver une branche d'arbre. Mais globalement, on peut dire que si vous regardez les pays occidentaux, où là où il y a des très fortes concentrations de liens humains, c'est ni plus ni moins une déchéance totale pour les EDLM. Donc ils en sont réduits à habiter dans des ghettos, c'est-à-dire dans des îlots, un petit peu loin de la civilisation quand il en reste. Donc grosso modo, en résumé, eh bien, quand nous regardons les EDLM véritablement, eh bien, ils sont à l'image des gens que nous avons vus dans les camps de concentration. Alors ils ne le disent pas, parce qu'ils n'ont pas le droit de le dire. Mais c'est un fait avéré. Donc quand vous mettez un caillou encodé sur un vortex principalement, eh bien d'un seul coup ce vortex se permet de diffuser, on va dire, les codes, c'est-à-dire la nourriture dont se servent les EDLN pour grandir. En clair, eh bien c'est un supermarché que vous leur offrez. Voilà pourquoi il est important de distribuer un maximum de pierres encodées partout. Que ça soit au niveau des arbres, parce que quand vous mettez une pierre encodée au pied d'un arbre, surtout un gros, alors bien sûr on peut mettre les petits, on est d'accord, mais les petits vont développer 5 mètres carrés de feuilles, les gros vont développer 40, 50, 100, 200 mètres carrés. Donc ce qui veut dire que les gros arbres ont une capacité, on va dire, de diffusion du code énorme. D'abord dans l'air, grâce à la transpiration, mais aussi toute la sève de l'arbre, donc va pouvoir, enfin, on va dire, avoir le code. De ce fait, les EDLN peuvent venir habiter cet arbre, et peuvent venir sur toutes les branches, et peuvent enfin se restaurer correctement. Donc il est évident qu'une fois que les EDLN sont restaurés suffisamment, ils reprennent, on va dire, du poil de la bête. Et en reprenant du poil de la bête, eh bien, ils se permettent à ce moment-là de pouvoir y mettre plus de cœur à l'ouvrage pour regagner du terrain par rapport au terrain perdu. Alors, souvent, on se pose la question, on dit comment des EDLN peuvent-ils aller à l'encontre des joueurs? Ils ne vont pas à l'encontre des joueurs. Disons qu'ils ont comme particularité de pouvoir donner une note juste, c'est-à-dire que l'être humain est comme un clavier de piano avec, on va dire, 12 octaves, et dans chaque octave, il y a un certain nombre de notes. Les EDLN correspondent à certains octaves. Et c'est dans ces octaves, eh bien, ils sont une note pure. Car l'involution, c'est le jeu de l'involution, a été de nous couper de nous-mêmes. Et pour nous couper de nous-mêmes, il fallait nous couper de l'effet, on va dire, résonance. C'est-à-dire que toutes les notes de notre clavier sont fausses. Donc, comme elles sont fausses, elles ne peuvent pas rentrer avec les notes de la création. Et donc, de ce fait, nous sommes coupés. En clair, quand un EDLN vient vous sauter dessus, entre guillemets, eh bien, il permet à votre corps de pouvoir retrouver une note juste. Donc, plus vous êtes en contact avec les EDLN, et plus votre corps a la capacité de pouvoir réaccorder toutes les notes de votre clavier. Enfin, toutes. Une grande partie, surtout dans les premiers octaves. Hein, sachez que les EDLN, si on parle de la 1D, 2D, ce sont surtout les élémentaux, et quand c'est la 5D, 6D, ce sont les EDLN. Ensuite, eh bien, de la 7D à la 12D, on va dire, ce sont les EDL. Donc, en 3D, 4D, c'est les animaux et les hommes. Or, les animaux autant que les hommes, puisque le jeu de la falsification se faisait principalement en 3D, 4D, eh bien, ont été pollués. Donc aujourd'hui, beaucoup d'animaux sont pollués, entre guillemets. C'est-à-dire, on dira, ah oui, voilà, par exemple, le chien, le meilleur ami de l'homme, c'est formidable. Mais il y a quand même des chiens qui sont dressés à bouffer de l'homme. Enfin, quand je dis à bouffer, à agresser. Donc, quand vous avez un chien de garde, vous dites, oui, le moloste, gentil, mais croyez-moi que s'il était véritablement dans les lois de l'un, il pourrait même pas agresser n'importe quel être incarné, ce qui n'est pas le cas. Donc, ce qui veut dire que un certain nombre de races animales ont été polluées par l'expérimentation de l'involution. Donc, il ne faut pas croire que le fait d'être au contact des animaux est un gage de pureté totale. Bien sûr, certains animaux ont été moins pollués que d'autres, mais il n'empêche que ceux qui ont été le moins pollués, qui n'ont pas été en fait, ce sont ceux qui sont en 1D, 2D et en 5D, 6D. Ceux-là, n'étant pas des joueurs, ils ne pouvaient pas être, modifiés. Par contre, ils ont pu se faire bouffer, détruire. Donc toutes les saloperies que nous faisons en 3D, 4D, c'est-à-dire par exemple quand on fait de la chimie, la chimie c'est de la 2D principalement. Quand on joue avec du radionucléaire, c'est clair que là on va attaquer dans des dimensions beaucoup plus élevées, puisque vous savez que la radioactivité attaque véritablement non seulement la 1D, 2D au niveau de l'ADN, non seulement au niveau de la 3D, 4D, mais va attaquer jusqu'à la 12D, c'est-à-dire est capable de détruire, on va dire, votre particule d'esprit. Donc c'est extrêmement dangereux. Voilà pourquoi, une question qu'on m'avait posée il n'y a pas très longtemps, on dit mais pourquoi les intras ou les galactiques, les extraterrestres interviennent-ils par rapport au nucléaire et disent que plus personne ne pourra utiliser les armes nucléaires? Parce que tout simplement ça dépasse largement la responsabilité simple de l'homme. Nous sommes incarnés de la 1D à la 6D, puisque c'est, comme je vous le rappelle, le 1-1, c'est-à-dire le masculin-masculin, parce que votre soi supérieur est un masculin féminin, la 7D à la 12D. Eh bien, le nucléaire détruit ce qui est éternel, et ça, ce n'est plus admis. Voilà pourquoi ils interviennent. Ce n'est pas de l'ingérence dans notre humanité, parce que s'ils l'avaient pas fait, on serait déjà mort depuis Balurette. Donc, ils essayent de maintenir notre soi supérieur en état, car je vous rappelle que passer en 5D, 6D, c'est surtout être en contact permanent avec notre soi supérieur. Or, si notre soi supérieur est lui-même un morceau de gruyère à cause de la radioactivité générée par toutes les conneries nucléaires humaines, il est évident que là, le jeu va s'arrêter. Voilà pourquoi les galactiques et les intraterrestres ont souvent des missions, bien sûr, secrètes, que personne ne voit, pour, bien sûr, annuler un maximum la radioactivité. Et dites-vous bien que si les gouvernements ont arrêté de faire des expériences atomiques à la surface de la planète, c'est qu'ils voyaient que, franchement, ça faisait mal à beaucoup de gens et qu'ils allaient tous en crever. Alors ils se sont dit, on va le faire dans la Terre. Mais c'était surtout aussi pour emmerder tous les intraterrestres. Donc vous voyez que les gouvernements savent beaucoup plus long, parce que dire on fait des essais souterrains de bombes nucléaires, aujourd'hui on n'a plus rien à apprendre là-dessus. On sait parfaitement comment ça marche, alors pourquoi continuer à en faire? On continue à en faire non pas pour faire soi-disant des calculs, puisque théoriquement on est en train de désarmer le nucléaire sur la Terre, normalement. Donc ceux-ci sont des mensonges. C'est surtout pour, on va dire, éviter que les intraterrestres viennent nous donner un coup de main à la surface. Voilà pourquoi ils essayent de détruire le monde de l'intra-terre via les essais souterrains nucléaires. Alors, donc pour revenir aux EDLN, sachez que sans eux, la vie n'existerait pas sur cette planète. Donc c'est pour cela qu'il était prévu, avant qu'on change de fil du temps, que les EDLN étaient regroupés à certains endroits pour se tirer, tout simplement, parce que le jeu était terminé. Et donc un EDLN qui s'en va, c'est une source de vie qui s'en va, ce qui veut dire que l'herbe ne poussera plus. Donc, non, on a changé de fil du temps, donc maintenant l'aspect nettoyage total de la planète n'est plus de mise, mais n'empêche que reste quand même un aspect nettoyage quand même à certains endroits, et notamment dans les endroits extrêmement pollués par, bien sûr, les plus grands prédateurs et les plus grands involuants de la planète, qui sont les primes. Donc il va falloir s'attendre à quelques catastrophes dites naturelles. Parce que Mamantia, Gaïa, ne laissera pas faire, on va dire, un certain nombre de choses, et comme on dit, elle a besoin de se gratter de temps en temps. Ça rappelle aux humains un peu d'humilité. Alors, une question de Jib26. Une petite question technique concernant l'encodage des galets que j'aurais prélevés dans les différents cours d'eau de la région. Pour l'instant, je les ai mis dans des sacs en plastique marqués du lieu de prélèvement. Mais lors de l'encodage, je suppose qu'il faut les sortir de leur sac. Mon problème, c'est que je souhaiterais les remettre dans leurs cours d'eau respectifs, donc de ne pas les mélanger pour moi. La solution serait de les mettre dans des sacs en toile de jute ou des sacs type sac à patates ajouré, par exemple, ce qui laisserait l'eau encodée passer. Qu'en penses-tu? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons déjà une solution de pouvoir encoder dans des sacs plastiques séparés. Le seul problème, c'est que s'il y a trop de sacs plastiques, il faut qu'on fasse plusieurs séances d'encodage. Donc effectivement, le fait de mettre les cailloux dans, on va dire, des sacs plastiques ajourés, c'est-à-dire qu'on prend une grande bassine et on met tous les sacs dedans. Simplement, il faut que l'eau puisse passer dans tous les sacs. Donc généralement, eh bien, il arrive que ça soit des sacs plastiques, mais on remplit plus haut que le bord du sac plastique, qui fait que la même eau peut aller dans tous les sacs. Alors bien sûr, toile de jute, c'est ok. Sac en toile classique, c'est ok. Sac grillagé, c'est ok. Il n'y a pas de souci. Mais bon, il faut prévoir à ce moment-là un grand bac dans lequel on peut mettre les différents sacs. Donc c'est comme ça que ça joue en général. Donc ce problème est résolu en soi, puisqu'on l'a eu pratiquement dès le début. Voilà. Une question de Julien. J'ai une question concernant les obélisques que l'on trouve à Paris, Washington, Londres ou encore Rome. À quoi servent-elles? Ça m'étonnerait qu'elles soient là simplement pour la déco. Alors, il est évident que derrière des objets de déco, il faut savoir qu'il y a toujours une raison majeure. Et cette raison majeure n'est pas toujours, on va dire, accessible pour le commun des mortels. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple l'obélisque de Paris, qui est situé juste, on va dire, à la naissance des Champs-Élysées, eh bien, c'est tout simplement, c'est là que réside la particule d'esprit de l'humanité. Donc voilà pourquoi la France est le pays le plus visité du monde, que Paris est la ville la plus visitée du monde, que les Champs-Élysées sont l'avenue la plus visitée du monde. C'est parce que, inconsciemment, les gens ont envie de se rapprocher de l'esprit de l'humanité. Donc sous l'obélisque, effectivement, il y a la particule d'esprit, on va dire, de l'humanité, tout simplement. Voilà pourquoi la France a un rôle très, très, très spécial, car vous savez que la particule d'esprit se trouve dans le cœur. Et donc, de ce fait, vous comprenez pourquoi la France est le cœur de l'humanité. Et donc, c'est à partir de là que tout démarre. Or, aujourd'hui, il est évident que l'opération Petit Poucet n'est pas très fort, on va dire, dans la région parisienne, parce que la région parisienne est fortement très chargée, on va dire. Et c'est normal quand vous regardez la région parisienne, c'est quand même une grosse tâche. Et trouver des vortex dans la région parisienne avec un EDLN derrière, il n'y en a pas. C'est tout simple, il n'y en a pas. Donc aucun EDLN ne peut vivre à Paris ou, on va dire, dans la région parisienne assez proche. Parce que le taux de vibration est si bas et si violent qu'il n'y résiste pas. Donc il y a toujours bien sûr quelques exceptions, enfin moi j'en connais une, mais il n'y en a qu'une. Donc comprenez que quand on arrivera à décrasser Paris, ça veut dire que tout ce qu'il y a autour aura déjà été décrassé. Donc en encodant tous les cours d'eau qui alimentent la Seine, va faire que Paris, tôt ou tard, va se faire décrasser. Alors bien sûr, il y a une équipe sur Paris qui fait son maximum, on est d'accord, ça aide. Mais il est clair qu'il faut que tout ce qu'il y a autour de Paris soit encodé et soit monté en puissance le maximum. Qui fait que ce point noir qu'il y a sur la carte, eh bien, devienne gris. Et d'un gris de plus en plus clair. pour un jour devenir vraiment une ville lumière. Mais d'ici là, il va se passer encore un peu d'eau sous les ponts, car vous savez que la France centralise énormément et que tout se trouve à Paris. Donc, il y a beaucoup de choses à faire en région parisienne, et c'est pour ça que, on va dire, j'ai du mal à y mettre les pieds, pour la simple et bonne raison, c'est que c'est devenu pratiquement incompatible avec ma vibration. Je ne peux plus aller en région parisienne, et encore moins à Paris. Ça m'est très, très, très difficile. Alors, une question de Françoise 23. Serait-il possible d'indiquer sur une carte où se trouvent les vortex afin d'y déposer des cailloux encodés? Je ne sais pas les trouver. Eh ben, les vortex, il y en a des milliers et des milliers et des milliers, mais de toutes les tailles. Donc il n'y a pas de carte là-dessus, on va dire à proprement dit. Pour la simple bonne raison, c'est que la majorité de la partie de la population est d'abord incapable de savoir où il y a un vortex et d'en détecter un. Alors c'est là que je fais appel à tous les gens qui ont suivi des stages, par exemple les stages de Yann Lipnik, qui ont pu donc développer cette capacité à trouver des vortex. Il est évident que les gens qui ont suivi ces stages ont des facilités à ce moment-là pour pouvoir déposer au bon endroit. Ensuite, la deuxième solution, c'est d'être en quille avec un être de la nature, par exemple une fée. Si vous avez une fée de l'air avec qui vous causez bien, eh bien je peux vous dire qu'elle va vous indiquer où sont tous les vortex. Hein, vous prenez la voiture, elle monte avec vous et elle vous dira où se trouvent les vortex. Hein, donc, sachez qu'il y a des tas de possibilités. Alors, bien sûr, vous pouvez apprendre aussi à détecter ces vortex. C'est d'une simplicité déconcertante. Donc à chaque lieu où il y a des encodages, en règle générale, je donne un bref aperçu du comment faire. Et je peux vous dire que en moins d'une minute, vous seriez capable de détecter un vortex, même de savoir quel est le gardien, à quel genre il appartient, et à la rigueur trouver son nom, et voir de commencer à discuter avec lui. Nous prenons souvent la tête en croyant que c'est extrêmement difficile, mais croyez-moi que c'est absolument faux. Donc ça, c'est quelque chose qui s'acquiert. Mais comme vous avez pu le voir, je peux pas être partout en France parce que je ne suis pas dans le style à faire des stages pour l'instant, parce que ce n'est pas ma fonction. Mais il est clair que, normalement, là où il y a des tas de cailloux, normalement, les gens apprennent à non seulement discuter, à entendre leur petite voix et donc à pouvoir demander ce qu'ils veulent, y compris où se situent les vortex. C'est simple, c'est tellement simple. Oui. Donc, voilà Françoise, à toi de te rapprocher d'un être de la nature ou de te rapprocher de quelqu'un qui est un géobiologue, par exemple, ou de quelqu'un qui a suivi des stages de Yann Lipnik. Et normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Et la dernière solution, tu viens à une journée d'encodage, enfin une soirée d'encodage, et puis tu auras peut-être la possibilité à ce moment-là d'apprendre cela en quelques minutes. Une question de Tommy Tom. L'Ardèche où j'habite recèle une foultitude de domaines, plus de 700 répertoriés. Certains sont complètement écroulés, mais n'est-ce pas l'emplacement qui indique que là se trouve un vortex ? Oui, c'est le cas. J'ai mis quelques de ces deux P bien cachés dans deux d'entre eux et je suis prêt à en mettre encore dans d'autres. Cela sera-t-il bien utile ? Le maximum. Mettez des cailloux encodés partout où vous trouvez des grosses pierres, dolmens, menhirs, etc. Quant aux rares menhirs, difficile de cacher des cristaux à moins de les enterrer au pied de ceux-ci. Eh bien, faut les enterrer, puis voilà. Je voudrais être sûr de ne pas agir pour rien. On n'agit pas pour rien dès qu'on met des pierres encodées quelque part. Ces pierres encodées, même à l'air libre, encodent. Nettoient, décrassent. Hein, vous verrez plus tard par rapport à la question auquel je répondrai. Une question de 1000. 1. Je voudrais savoir ce qu'il allait advenir des sites religieux. Quelle est leur future utilisation? Ne risque-t-on pas de croire à une résurgence de la religion? Eh bien, les sites religieux sont, comme je l'indiquais, des sites à haute énergie qui ont été volées, confisquées par les religions. Ça, c'est une chose. Maintenant, de croire à une résurgence de la religion, ça sera les religieux qui diront, hein, c'est bizarre, il y a de plus en plus de gens qui viennent nous voir à l'église ou ailleurs. Ils pourront croire ce qu'ils veulent. Simplement, quand un petit poussé ira désormais dans une église, ou enfin on va dire un site religieux qui aura été encodé, il n'ira pas pour se mettre à genoux devant la croix ou devant autre chose. Il fera son tafalu dans les locaux, en respect de tout le monde. Simplement, les gens ne sauront pas ce qu'il fait. Mais lui fera autre chose. Il n'ira pas pleurnicher ou prendre le missel et chanter un truc à droite à gauche. Non, généralement, il sera silencieux. Il fera son taf. Et quand il aura fini, il repartira. Donc, le curé verra éventuellement plus de gens qui viennent dans son église, mais il verra pas plus de disciples. Parce que ils viendront pas à ses messes, ils viendront pas à ses enterrements, ils viendront pas à ses cours, à son catéchisme, etc. Donc, comprendront qu'il se passe quelque chose, mais peut-être qu'un jour, ils comprendront, parce que, croyez-moi, que l'ange de l'église, lui, va s'occuper du curé. Deux, est-ce que seule l'église était au courant pour les vortex? Non. Y a-t-il un vortex dans la Kaaba de la Mecque? Probablement. Je sais que cet ancien lieu de culte païen, d'après l'Église réunie, il y a eu récemment une intervention des hautes sphères là-bas. Dites-vous bien que là où il y a le rassemblement de millions de gens, eh bien, c'est que le vortex est pour piquer des vers. Donc, à la Mecque, c'est sûr qu'il y a un très très gros vortex. Or, comme vous le savez, cette religion qui se dit pacifique est malheureusement animée d'un certain nombre d'individus qui ne le sont absolument pas. Donc, il y a effectivement quelques interventions qui doivent se faire. Et, comme vous le savez, pour aller à la Mecque, il n'y a qu'un musulman qui peut y aller. Donc, peut-être qu'un jour, eh bien, un musulman prendra un C2P et il ira le mettre dans la cour de la Mecque. Peut-être que ça changera les choses. Mais pour l'instant, c'est pas moi qui ira encoder là-bas parce que je suis interdit de séjour, parce que j'ai pas franchement le look de quelqu'un qui a épousé l'islam. Et dites-vous bien que les religions sont, à titre comme même certaines philosophies, sont des organisations qui sont faites pour effectivement entraîner l'homme dans la perdition d'une manière ou d'une autre. Après, vous pouvez prendre tous les mots que vous voulez. De toute façon, c'est pas difficile. Si nous nous rencontrons et vous voulez vraiment ferrailler un petit peu, en parlant d'une religion et du pourquoi elle vous élève, il ne faudra pas 3 minutes pour vous démonter votre argumentation. Mais bon, il faut avoir un regard extérieur parce que généralement, quand on est dedans, on ne voit pas toutes les choses. Une question de Cécile, cette fois-ci sur l'électricité. Est-ce que le code peut remonter aussi l'électricité? Y a-t-il une possibilité du programme pour les électrons? Par exemple, j'ai mis un de ces 2P sur mon compteur comme tu le conseillais, ce qui change la nature du champ électromagnétique du réseau électrique chez moi, mais cela pourrait-il remonter les lignes? J'ai été mettre des Q2P sous la ligne à haute tension de ma ville, dans des zones avec des arbres, et d'autre part, j'ai eu un rêve où je pouvais voler sur les lignes à haute tension et les antennes en l'air avec mes pierres. Aurais-tu une explication ou une info? Eh bien, personnellement, bien sûr, j'ai aussi une pierre, et pas seulement une pierre en fait, hein, j'ai mis un solide de Platon, ce qui est encore plus efficace. Donc, parce que si vous voulez, le code, hein, c'est comme une vibration, entre guillemets. Donc c'est un aspect féminin qui corrige pas mal, mais quand vous mettez un solide de Platon, vous y rajoutez l'aspect masculin, c'est-à-dire l'aspect géométrique. Et donc ça fait encore plus de boulot, hein, puisque vous avez à ce moment-là du masculin et du féminin. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi j'ai pas fait tous les essais, et autant on peut voir que quand on pose un cristal un CDP sur le compteur électrique, ça change effectivement l'atmosphère de la maison, puisque toute la maison est en fait un système nerveux, qui est donc le système électrique, hein, ni plus ni moins, puisque partout où vous avez des prises, où vous avez des interrupteurs, ce sont quand même des fils. C'est comme le sang, hein, c'est-à-dire que ça va s'est distribué dans l'intégralité de la maison. Donc il est évident qu'à ce moment-là, il y a une réaction. Donc maintenant, savoir comment ça remonte les lignes de tension et qu'est-ce qui se passe sur les lignes de tension, là, sincèrement, je peux pas vous dire. Je ne suis pas assez dans la partie pour savoir ce qui se passe, parce que je travaille pas à EDF et peut-être que ce serait quelqu'un d'EDF qui pourrait, qui travaille à EDF, qui pourrait peut-être regarder ça gentiment en faisant des essais, en mettant quelques C2P là où il y a des transformateurs, vous savez, des gros parcs de transformateurs, de voir ce qui se passe. En tout cas, une chose est claire, c'est que nous avons eu l'occasion d'encoder un rocher à côté d'un transformateur. Et le DLN qui était là, le gardien de ce vortex qui était là, était déserté parce que aucun être de nature pouvait venir se nourrir à ce vortex. Pourquoi ? Parce que les ondes électromagnétiques dégagées, les fréquences dégagées par ce transformateur étaient insoutenables. Et généralement, quand vous entendez un transformateur à l'oreille, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe du tout. Donc, le fait d'avoir encodé son rocher fait que maintenant, eh bien, le DLN peut rester sur son rocher sans être perturbé par, on va dire, la radiation de ce transformateur. Donc, on peut dire qu'il y a effectivement quelque chose qui se passe, mais là, encore, je ne peux pas vous donner plus d'informations, car je ne suis pas outillé pour savoir ce que ça fait exactement. Une question de Françoise. Quelle taille de cristal encodé peut-on mettre sur un compteur électrique pour que les effets nocifs soient annulés au maximum? Alors, là c'est pareil, c'est pas la grosseur qui compte. C'est-à-dire le fait c'est que ça soit déjà là. Alors bien sûr, si vous mettez une pierre qui fait 1 kg, ça aura peut-être un effet différent que si vous mettez une pierre qui fait 10 grammes. Mais globalement, quand vous êtes au niveau d'un compteur électrique d'une personne, enfin d'une maison, on n'a quand même pas... 3000 kilowatts à l'heure, quoi. Je veux dire, c'est quand même des tensions, pas des tensions, mais disons des puissances qui sont comparables à celles d'un foyer. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, un simple C2P de 10-15 grammes, ça suffit largement. Par contre, c'est sûr que si vous êtes dans une usine avec un gros transfo qui vous transforme du 20 000 volts en 220, c'est sûr que là, juste un petit cristal, ça doit pas suffire. Hein? Donc là, vous en mettez plusieurs. Voilà, mais là, pareil, je ne peux pas vous dire, parce que je ne peux pas faire l'essai. Une question de Carlos. Peux-tu nous parler un peu plus du programme qu'il y a dans l'encodage? Les EDLN, EDL, Galactique, t'ont-ils informé de toutes les capacités ou options du programme que j'appelle informatique inclus dedans? Je pense que sa puissance et son action va au-delà de ce que notre mental égo peut en comprendre. Alors là, je suis à 300% d'accord avec toi. C'est-à-dire que pour l'instant, les capacités de son programme sont très 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 au-delà de nos capacités de compréhension de ce qui se passe. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce programme contient, on va dire, des codes et aussi, on va dire, des clés d'activation. C'est-à-dire que l'ensemble de toutes les hiérarchies, de toutes les dimensions, ont apporté les codes de 5D6D. Dans ce programme. Ce qui veut dire que chaque être de la nature, chaque EDL, chaque entité, y compris bien sûr notre corps, peut prendre le code dont il a besoin. Donc dans ce programme, y compris une énormité, puisque c'est l'ensemble de tous les codes d'activation pour que la 5D6D, le nouveau monde de la 5D6D, prenne place. Donc c'est un supermarché fait pour tout le monde. Alors, nous avons appris que dans ce code, par exemple, il y a des codes d'activation pour que les cités cristallines ressortent, hein, celles qui sont sous l'eau, qui reviennent à la surface. Il y a plein de choses. Simplement, il faut être habilité pour comprendre ce qui se passe et avoir un degré, on va dire, de technicité qui est on va dire, très élaboré. Donc, nous avons vu qu'auprès des EDLN, eh bien, les EDLN comme les nains, les gnomes, enfin, un certain nombre comme ça, eh bien, peuvent prendre un certain nombre de codes. Comme ça, là, d'une manière, on va dire, relativement directe. Par contre, certains codes d'activation, comme ceux des cités cristallines, demandent, on va dire, des ingénieurs. Et ces ingénieurs sont généralement des elfes. Donc, les elfes sont beaucoup plus techniciens, ingénieurs, et très haut placés, on va dire, dans la hiérarchie technologique ou technique, c'est comme vous voulez. Et donc, ce sont eux qui sont capables de choper les bouts de code, d'ouvrir ce code, et de voir, en fait, qu'est-ce qu'il y a dedans et qu'est-ce qu'ils peuvent utiliser. Mais j'ai aussi appris que certains codes permettaient de pouvoir réactiver, par exemple, certaines batteries ou certains accumulateurs qu'il y a, par exemple, sur la grille cristalline. Donc, c'est vaste. C'est énormément vaste. Alors, comme nous avons aussi encodé certains points de la grille cristalline qui sont en communication, on va dire, avec l'intra-terre, eh bien, même l'intra-terre chope les codes et agissent en conséquence. Il en est de même pour les galactiques. C'était pour vous dire que ce programme contient énormément, énormément de choses. Simplement, nous ne savons pas décortiquer cela, car premièrement, nous n'en avons absolument pas les capacités. Et deuxièmement, c'est réservé, on va dire, à des techniciens principalement. De l'invisible. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce code? On commence à voir, mais ce que je sais, ce que nous a clairement exprimé, c'est que c'est la totalité de tous les codes pour mettre le nouveau monde en place. Voilà pourquoi tout sera nettoyé avec ce code. Alors, quand les gens me disent « Oui, mais il y a Fukushima, oui, mais il y a ceci, oui, mais cela », vous inquiétez pas. Tout est inclus là-dedans. Donc, nous avons même appris qu'il existe des codes à retardement. C'est-à-dire que certains codes ne seront accessibles que quand la fréquence de la Terre aura atteint une certaine fréquence. Et atteint une certaine fréquence, eh bien, certains codes vont s'ouvrir. Mais pour l'instant, ils restent, on va dire, bloqués, cachés. Donc, nous sommes très 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 loin de savoir qu'est-ce qu'il y a vraiment dans le coffre de cet encodage. Mais une chose est claire, c'est que cet encodage permet quasiment d'éradiquer quasiment tout ce qui existe du monde de la 3D, 4D, y compris la pollution. Donc pour les gens qui ont déjà mis des cristaux dans leur tuyauterie, vous pouvez voir que c'est quasiment de l'anticalcaire, que c'est de l'anticlore, que c'est de l'antifluor. C'est-à-dire que cet encodage nettoie absolument tout. Donc c'est pour ça que, concernant tous les appareils d'eau, de traitement de l'eau, etc., etc., eh bien, vous verrez que plus la France montera en fréquence, et sera aussi plus encodée, eh bien, il y a un certain nombre de choses que nous faisons à l'eau qui n'auront plus lieu d'être, tout simplement. Puisque l'eau, à la base, aura été nettoyée. Pour l'instant, c'est pas encore flagrant, on le voit au niveau local. Mais quand ça sera suffisamment répandu, vous allez voir que les marchands de matériel de dépollution ne vont plus vendre grand-chose. Bien. Alors, je vois quelqu'un qui n'arrête pas de poser des questions. Peut-on parler des crânes de cristal pour commander Léa? On verra ça un tout petit peu plus tard. Pour l'instant, je vais rester sur tout ce qui touche, on va dire, l'encodage. Et puis vers la fin, je parlerai plus amplement des autres questions. Une question de Daniel. Je suis passé à la basilique Saint-Martin à Tours. C'est là que se trouve le tombeau de Saint-Martin dans une crypte de bénitier vide. Quel scandale, je les ai promptement remplis d'un litre d'eau bénite spéciale 5D et plus. Il y a une grille doublée d'une vitre qui protège et permet de voir l'ossuaire. Est-ce vraiment Saint-Martin? J'ai trouvé juste l'espace pour glisser un de ces deux P. Quel peut être l'effet sur l'égrégore voué à Saint-Martin? Réorientation vers d'autres bénéficiaires. À la sortie, gros sourire de deux sœurs comme pour me remercier. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, encoder une église va amener un nettoyage quelque part. Or, il faut savoir que les saints, surtout le saint des églises, étaient pour la majorité des types comme vous et moi, en gros, qui avaient quand même réussi à pas décrocher la timbale, mais à passer à un stade, on va dire, de saint, ce qu'on appelle de saint. Je peux vous dire que c'est quelque chose d'assez facile à avoir. Vous savez que vous allez devenir un saint avant de devenir un maître ascensionné et avant de devenir Christ. Donc, saint, c'est la première marche. Et saint, vous notez le T à la fin et vous comprendrez qu'un saint, c'est simplement quelqu'un qui cause avec son soi supérieur et c'est tout. Donc, quand vous causerez avec votre soi supérieur d'une manière, on va dire, habituelle, normale, et que votre soi supérieur a vraiment pris les commandes, vous serez un saint. Donc, c'est pour ça que les religieux savaient très bien que en gardant les nonos, les fameuses reliques, c'est que ça permettait une vibration, parce qu'effectivement, ces individus avaient augmenté leur fréquence. Donc, dans l'idée, on va dire, l'idée était juste. Simplement, ça a complètement dérivé vers des conneries, en fait, hein, qui, à la longue, n'a fait que créer, on va dire, des égrégores. Et souvent, ce fameux saint, comme un certain nombre de protocoles n'étaient pas très respectés, on va dire, se sont retrouvés, ni plus ni moins, enfermés. Donc, ce fameux Saint-Martin, il est peut-être sous la glace, là, en train de regarder, de dire, les gars, copains, là, je suis coincé, là, vous m'avez fait chier, là, avec vos conneries. J'aimerais bien pouvoir poursuivre mon chemin, mais je suis coincé. Alors, en plus, comme tout le monde pense à moi, je peux pas me tirer. Donc, voilà. Hein, puisque ça, c'est une autre façon aussi pour bloquer, on va dire, des esprits en élévation. C'est, effectivement, de les sanctifier, de faire en sorte qu'à ce moment-là, ils se trouvent bloqués dans l'astral par un égrégore conséquent. Alors, les gens, ils pensent bénéfice, ils disent, ouais, je pense à tel saint, ou à tel saint, voilà, je suis pompier, c'est saint machin, je suis cycliste, c'est saint machin, c'est ta. Ce qu'ils oublient, c'est que, en fait, ils ont créé un égrégore qui emprisonne l'individu, lui-même. Donc, on croit bien faire. Mais dans la réalité, c'est tout à fait l'inverse. Donc, le fait d'encoder les églises, et tous ces lieux-là amènent, on va dire, d'autres nettoyages, c'est-à-dire la capacité, effectivement, à certaines entités de pouvoir se dégager de ces fameux égrégores, ou de ces prisons, on va dire, vibratoires. Une question de Jean-Phi. J'ai lu récemment un article qui relatait les effets de l'orgonite, ou générateur d'orgone inventé par William Reich en 1947 sur l'environnement vibratoire négatif, essentiellement pollution électromagnétique, notamment sur l'amélioration de la qualité de l'eau. Celle-ci, une fois mise dans la sphère active de purification, jusqu'à plusieurs centaines de mètres, atteindrait un taux vibratoire de plus de 80 unités de Bovis. Sachant qu'un générateur d'orgone est très facile à fabriquer, pourrais-tu, Laurent, nous en dire un peu plus, compte tenu que ces générateurs contiennent des cristaux, quartz, améthyste, etc., d'où intervention des EDLM. Pourrait-il devenir négatif par accumulation de rayonnements électromagnétiques? Bref, peuvent-ils être associés à des cristaux encodés? Alors, réponse, je n'en sais absolument rien du tout. C'est-à-dire qu'il y a effectivement quelques personnes que je connais qui s'amusent, qui sont effectivement des fanatiques de des harmonites. Ils en fabriquent en voiture, voilà. Et forcément, j'entends des gens qui disent un argumentaire très logique, mais surtout très négatif, alors que d'autres vont dire c'est très logique et aussi très positif. Donc, moi, je n'ai absolument pas fait vraiment d'essai par rapport à tout ça. Je sais pas ce que ça a dans le coffre. Tout ce que je sais, c'est qu'un truc à 80 unités Bovis, ça devient de la préhistoire pour moi. Même une eau à 10 puissance 80 000, c'est de la préhistoire pour moi. Donc, pour dire, par exemple, l'eau que je bois actuellement, c'est 10 puissance 1 million. Ça a dépassé le 10 puissance 1 million. Alors, je peux vous dire que quand vous avez 1 million de zéros, même 81 000 unités de vis, même si j'arrondissais à 100 000 unités de vis, c'est 5-0. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de 5-0 quand vous en avez, vous buvez l'eau comme à 1 million? À quoi sert de pinailler sur une virgule quand tu peux absorber le chapitre entier? Donc, beaucoup de choses qui étaient, on va dire, une bonne chose quand on avait de l'eau à peu près normale, voire très basse, hein, puisqu'effectivement, 80 unités de vis, c'est quand même élevé par rapport à une eau du robinet qui en fait 15-20, c'est évident. Mais quand tu as une eau qui est au-delà de tout ça, c'est tu prends, tu baignes, c'est pas peine de s'embêter, quoi. Mais bon, faire des essais, regarder, sortir le pendu, et voir ce que ça donne. Voilà, bah écoutez, maintenant je vois que les questions qui viennent à la suite sont des questions un petit peu plus diverses, qui ne correspondent pas à l'opération petit poussé. Donc, je vais arrêter pour l'instant ici.